Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent.
Ah, je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans.
C'est pas utilisé par les criminels, ça?
L'impact environnemental est loin d'être négligeable.
Prépare une ICO qui va tout révolutionner.
Ça va jamais marcher, en fait.
21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission Cryptopédago qui vous raconte l'histoire passionnante et mouvementée du Bitcoin et de la décentralisation numérique. Chaque mois, nous vous expliquons simplement en quoi cette révolution est économique, politique et surtout philosophique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je reçois Pierre Noizat, le fondateur de Paymium, l'un des tout premiers sites du monde sur lequel on pouvait en acheter. Mais pourquoi donner de l'importance à cette infrastructure? Eh bien tout simplement parce qu'elle est centrale. Sans bourse d'échange, pas de moyen d'acquérir des crypto-monnaies à moins de connaître quelqu'un qui en a déjà. Ça peut sembler évident en 2018 avec des sites comme Coinbase, mais à la création de Paymium en 2011, c'était loin d'être aisé. Les moyens étaient rudimentaires et très peu sécurisés. Sans compter que les premières bourses ressemblaient plutôt à de super lessiveuses à argent sale. Pierre Noizat reviendra donc sur toute l'histoire du secteur, de la faillite de Mt. Gox à l'émergence du géant Coinbase, en passant par son nouveau projet, Blockchain.io, dont l'ambition est de créer un champion européen. Un géant local qui ne subirait pas la loi des puissances étrangères comme ça s'est passé avec Internet. Bonjour Pierre Noizat.
Bonjour Grégory.
Aujourd'hui, c'est relativement facile d'acheter des bitcoins. On prend sa carte bancaire et hop, c'est fait. Mais il y a quelques années, c'était pas vraiment ça. Hein. C'était d'ailleurs la principale barrière à son développement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passait pour acheter des bitcoins il y a 7-8 ans?
Effectivement, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé Paymium pour proposer une solution qui est une place de marché où on peut acheter des bitcoins avec des euros par virement bancaire. Auparavant, effectivement, il y avait des plateformes assez peu fiables. En fait, à l'époque où on a lancé, c'était les toutes premières plateformes. Donc, on n'avait pas de recul. On ne savait pas trop à qui on s'adressait. C'était ça le principal problème, en fait. Donc, nous, on essayait d'être visible, mais c'était difficile à l'époque parce que les médias donnaient pratiquement aucune place au sujet. Moi-même, j'avais essayé de contacter des médias ou des influenceurs, mais avec zéro succès à l'époque. Donc c'est vrai que c'était une vraie difficulté pour quelqu'un qui voulait se lancer, ce qui d'ailleurs a donné lieu à des initiatives assez marrantes. Je me souviens notamment des Bitbill. Je ne sais pas si tu te souviens
pas
de ça, mais c'était des bitcoins sur des cartes. En fait, c'est un peu le principe d'une carte à gratter. Finalement, on cache la clé privée derrière quelque chose. Et c'était format carte bancaire. C'était assez bien fait. Et je me souviens même d'avoir acheté pour 10 euros un bitcoin sur une Bitbill à l'époque. Mais ça s'est arrêté. C'était un jeune d'université américaine qui avait lancé ça. Et puis ça s'est arrêté parce qu'il a dû réaliser que c'était, encore une fois, il était money transmitter, enfin qu'il avait besoin d'une licence pour faire ça. C'est comme les Casascus Coins aussi, c'est qui était une autre du même genre, une autre initiative du même genre. On pouvait acheter donc des bitcoins physiques. Et donc ça se faisait la main à la main. Il n'y avait pas besoin d'application. C'était quasiment au café quoi qu'on pouvait faire ça.
D'accord, mais l'usage de la carte bancaire, du virement bancaire pour acheter un bitcoin, ça arrivait beaucoup plus tard.
Non, là on parle carrément de 2000, les tout débuts, c'est 2010 en fait, hein, 2010-2011 avec Mt. Gox et nous en fait, hein, et BTCE, les trois premières plateformes qui permettaient de faire ça par virement bancaire. Donc c'était les débuts. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque en fait, on utilisait ces plateformes utilisaient des comptes bancaires qui n'étaient pas dédiés, qui étaient juste des comptes bancaires de la société où les fonds arrivaient, les fonds des clients arrivaient, ils étaient poulés, donc ce qu'on appelle, ils étaient mélangés dans un compte unique. Et maintenant, il y a des choses un petit peu plus sophistiquées, disons, qui sont mises en place.
D'accord. Et pour Paymium, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de traiter avec les banques au début? Par exemple, si je fais un virement vers Paymium dans le but d'acquérir des bitcoins, est-ce qu'il n'y avait pas un risque que l'opération soit refusée par la banque?
Oui, certainement. Il y a eu des cas de comptes bancaires fermés. Enfin, moi, j'ai entendu parler de comptes bancaires fermés pour des particuliers et pour des sociétés. Nous-mêmes, Paymium, on a dû faire face à ce genre de situation aussi dans les 6 ans de notre existence. Donc oui, les banques restent, surtout les banques françaises, restent particulièrement... Il n'y a qu'à voir les déclarations d'un dirigeant de d'une grande banque française récemment pour comprendre qu'il y a vraiment un gros effort d'éducation à faire au niveau des dirigeants des banques. Hein,
là, pour situer, on parle du directeur général de la BRED, hein, dans sa tribune dans Échos.
Je crois que c'est ça.
Revenons un peu à nos moutons et donc à l'histoire passionnante des plateformes d'échange. Au début de l'histoire de Paymium, donc en 2011, hein, c'est ça, l'un de vos principaux concurrents, c'était ni plus ni moins MTGOX, donc une boîte un peu mythique hein, dans l'histoire du Bitcoin. C'était une bourse d'échange japonaise qui captait jusqu'à 80% des échanges mondiaux à son pic. C'était pas trop dur de lutter contre un tel colosse, et déjà, pourquoi un tel succès?
Alors, c'est très simple. D'abord, on a lancé effectivement une plateforme d'échange parce qu'on a réalisé qu'il y avait un grand vide, à part même MTGOX, il n'y avait personne en fait, hein, quand on s'est lancé. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'on a bien vu que MTGOX faisait n'importe quoi au niveau de la connaissance du client. C'est-à-dire qu'en gros, il prenait n'importe quel argent de n'importe qui, et ce qui leur a permis de croître très rapidement. Parce que c'est vrai qu'au début, autant aujourd'hui, ça s'est beaucoup normalisé, au début, effectivement, ça a attiré forcément l'attention de gens pas forcément très recommandables. Et donc, ça a permis, ça a été une machine à blanchir de l'argent, je pense, MTGOX à ses débuts. Et on n'a pas voulu, nous, chez Paymium, suivre cette route. Par conviction, on s'est dit, c'est pas fait pour ça, Bitcoin. C'est pour l'inclusion financière, c'est pour proposer une alternative aux monnaies traditionnelles, c'est pas pour être un outil de blanchiment. Donc, on n'a pas copier, autant il y a des plateformes aujourd'hui qu'on a envie de copier pour certains aspects, autant MTGOX on n'a jamais eu envie de faire comme eux. En plus, comme eux, je devrais employer le singulier comme lui, puisqu'il était tout seul. C'était un des problèmes de MTGOX, c'est que c'était un one man show avec son fondateur, donc c'est pas très étonnant donc, que tout ça ait fini assez brutalement. Et nous, on continue notre route sur cette voie, je dirais, où on reste conforme aux exigences, au moins de lutte contre le blanchiment. Ça, c'est quelque chose auquel je suis attaché personnellement en tant qu'entrepreneur.
D'accord. Juste pour revenir encore sur MTGOX, il me semble que les gens qui voulaient acheter des bitcoins sur MTGOX, ils devaient envoyer un virement bancaire sur un compte offshore un peu bizarre, attendre plusieurs jours, enfin peut-être, je crois qu'on parle même de 15 jours, avant de pouvoir acheter vraiment le Bitcoin. Enfin, c'était très nébuleux, quoi. Ça n'inspirait pas vraiment confiance.
Alors, s'il fallait attendre 15 jours, c'est quand même pas à cause du virement lui-même, c'est à cause du temps de traitement, puisqu'il était débordé, donc il ne savait plus gérer les virements, vu que c'est des périodes où vous pouvez avoir 50 000 clients à nouveau par jour qui arrivent. Hein, donc, ça, évidemment, quand vous êtes tout seul, ça explose. Par ailleurs, le compte en bancaire en question, effectivement, était soit au Japon, soit à Hong Kong, soit, je me souviens qu'il a été en Pologne à un moment. Donc il était toujours en recherche d'une banque effectivement pour gérer ses flux bancaires et de manière, comme je disais, un petit peu opaque et pas toujours très conforme, on va dire.
D'accord. Et justement, après son piratage hein, en 2014, où ce qu'on a fait passer pour un piratage, MTGOX a fait faillite hein, et donc son ancien patron, on l'a pas nommé jusqu'à présent, mais c'est un Français, hein, Marc Karpeles. Il vit toujours à Tokyo, il est dans l'attente de son jugement et comparé notamment pour détournement de fonds. Donc ça n'a pas l'air d'être très propre tout ça. Bon, selon vous, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette histoire et est-ce que vous l'avez déjà rencontré en fait?
Alors, je me souviens qu'on avait fait un call, enfin une conférence téléphonique avec lui et notre directeur technique de l'époque pour justement faire un peu de pédagogie sur les exchanges et lui donner la parole, parce qu'il était quand même, comme on le disait, à la tête du plus gros exchange au monde à l'époque. Mais bon, rétrospectivement, c'était pas un podcast très réussi. Et donc, je sais même pas d'ailleurs s'il est encore disponible. Mais donc non, je ne l'ai pas rencontré directement. J'ai échangé par email sur un sujet tout simple qui était la marque Bitcoin, en lui disant que j'étais un peu soucieux que la marque Bitcoin n'était pas forcément déposée, que donc des trolls pouvaient, des patent trolls ou des trademark trolls pouvaient se l'approprier et faire nous gêner, disons, dans nos opérations. Et il l'avait pris, c'était tout de suite dans l'échange, on voyait qu'il était très condescendant, très peu enclin à communiquer, voilà. Donc ça s'est arrêté très vite, hein. J'ai dû échanger un ou deux emails et ça s'est arrêté très vite, et j'ai plus envie de communiquer avec lui d'ailleurs d'aucune manière que ce soit.
On l'a vu apparaître dans certains documentaires, on le voyait très très sûr de sa force, un peu
condescendant.
C'était un peu Scarface hein, dans certaines images qu'on a vues.
J'ai ressenti, c'était un jeune qui voulait donner des leçons un peu à tout le monde, je pense. Et voilà, donc c'est pas une personne forcément très intéressante à côtoyer.
D'accord. Et donc, juste pour situer à ceux qui nous écoutent, hein, lors du piratage de Mt. Gox en 2014, il y a eu 450 000 bitcoins qui ont disparu dans cette affaire. Hein. Et ça, ça a entraîné une perte de confiance dans le marché. Et le cours a mis près de 3 ans à retrouver le même niveau. Hein. C'est bien cette affaire qui a montré qu'il y avait un problème de sécurité dans l'usage du bitcoin, dans la façon dont on le conserve. Vous faites comment, vous, pour les protéger chez Paymium ?
Alors, on utilise des techniques qui, je crois, aujourd'hui sont à peu près adoptés par toutes les plateformes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cold storage. Hein. Donc, en gros, on ne gère pas les clés sur des serveurs qui sont en ligne et que les gens peuvent attaquer, donc, mais on les gère sur des supports plutôt papier, parce que le support papier a le mérite justement d'échapper plus facilement à toutes sortes d'interférences. Et on met ces supports, ça peut être aussi du support électronique. En fait, le principe du cold storage, c'est de diviser les clés privées en plusieurs parts et de les répartir dans des endroits géographiquement distants, de manière à ce que vous puissiez pas facilement constituer la clé privée. En tout cas, que ce soit pas instantané, que ça mette du temps et que ce soit compliqué, pour justement protéger ses fonds. Donc ça, c'est le principe de base du cold storage, faire des partager la clé en plusieurs parts. Donc typiquement, vous allez nécessiter, par exemple, 3 parts. Vous faites 5 parts avec la clé et vous allez devoir récupérer au moins 3 parts pour reconstituer la clé. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait en cold storage. Et vous utilisez des coffres ou des endroits sécurisés pour protéger ces parts, donc qui sont, comme je disais, sur des supports papier ou des supports de type électronique. Personnellement, je recommande plutôt le support papier.
Et ces coffres qui renferment toutes ces fortunes, et ils sont où ? Ils sont
alors,
à Paris ?
Chaque coffre individuellement ne renferme rien.
Oui, il faut les avoir tous ensemble.
Voilà, c'est qu'il faut réunir des secrets qui sont répartis dans des coffres. Donc ça, c'est pour ça que c'est si efficace comme moyen de protection. Et effectivement, ils sont éventuellement répartis dans plusieurs villes. Hein, c'est ça le principe. Il ne faut pas qu'ils soient tous au même endroit, bien entendu. D'accord. Et il faut qu'ils soient accédés par des personnes différentes qui, idéalement, ne se connaissent pas.
J'imagine que vous avez lu le fantastique reportage de Wired paru à la fin de l'été sur Coinbase, qui expliquait comment justement ils protégeaient leur Bitcoin. Donc juste pour expliquer brièvement, ils ont cette technique-là, mais ils le font dans une tente qui fonctionne comme une cage de Faraday, donc c'est-à-dire qui est imperméable aux ondes électromagnétiques, et ils impriment dedans. Et vous faites un peu pareil, quoi.
Alors, Coinbase, je crois qu'ils ont 20 milliards effectivement à conserver, donc je pense qu'ils peuvent prendre des précautions relativement coûteuses. Et là, ce que vous décrivez, ça indique qu'ils utilisent des supports électroniques plutôt d'ailleurs. C'est une façon de faire. Je suis pas sûr que je m'inspirerais de Coinbase. Je pense qu'une grosse société comme Coinbase, de toute façon, c'est presque plus compliqué à gérer, parce qu'il peut y avoir plus de personnes qui sont au courant effectivement du dispositif. Ça peut introduire des vulnérabilités, ce qu'on appelle des social engineering attacks. C'est un sujet, hein, la conservation par les individus même de leurs propres clés privées, pas seulement les exchanges. C'est un vrai sujet d'éducation. Il faut être éduqué au numérique et aux techniques de conservation, de partage de clés dont je parlais tout à l'heure, pour éventuellement le faire soi-même aussi. C'est ça quand même l'idée que j'ai, moi, c'est que les gens gardent leurs propres clés, qu'ils ne laissent pas leur coin sur la plateforme, parce que la plateforme n'est pas faite pour ça. La plateforme est faite pour échanger, pour échanger dans un sens ou dans l'autre, et ensuite retirer ses fonds. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de nos clients qui laissent leurs fonds chez nous quand même.
Et ce que vous décrivez, en tout cas votre projet, votre objectif, ça va vraiment à l'encontre de Coinbase, qui veut vraiment faire du custody, hein, de la garde. Hein.
Alors oui, il y a effectivement des gens qui pensent qu'il y a un business model, un modèle économique pour faire du gardiennage des clés. Moi, je ne suis pas convaincu, parce que je pense que les cryptocurrencies, par définition, elles doivent être, vous en avez la maîtrise. Si c'est les vôtres, vous en avez la maîtrise. Donc, faut exercer ce contrôle soi-même. Faut pas le confier à un tiers. Sinon, ça perd un peu de son sens. Et ça fait, en plus, ça crée un point central d'attaque, hein. En l'occurrence, c'était Coinbase qui a 20 milliards en gardiennage, apparemment. Ça crée évidemment de grosses incitations à les attaquer. Donc, je pense que c'est pas bon, et c'est pas ce que je préconise, et ce que j'aimerais, en tout cas, le message que je passerais aux dans le cadre de l'éducation au numérique qu'on essaye de faire tous, hein, c'est vraiment dire aux gens, conservez vos clés privées vous-même, utilisez les plateformes éventuellement pour échanger, mais après vous sortez les fonds et vous les contrôlez vous-même.
D'accord. Et si on peut rester juste quelques minutes sur Coinbase, c'est le géant du secteur, hein. On peut dire ça. La valorisation de la boîte aujourd'hui culmine à 8 milliards de dollars, c'est vraiment conséquent. Et on commence même à la présenter comme le Google de la crypto. En tout cas, la société adore se présenter comme ça aussi. Vous en pensez quoi? Qu'il y ait un acteur aussi dominant, aussi central dans l'industrie de la décentralisation en fait?
Exactement, c'est ce que vous dites, c'est exactement le problème. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas exister d'acteur aussi dominant. Ma vision à moi, c'est plutôt qu'il y ait une multiplicité des plateformes qu'on puisse utiliser plutôt près de chez soi. D'ailleurs, il y a des gens qu'on connaît quelque part ou auxquels on peut s'adresser relativement facilement, et certainement pas une plateforme mondiale qui domine le marché. Alors après, c'est le résultat de quoi Coinbase? C'est le résultat de la méthode américaine sur les marketplaces, pas seulement marketplace crypto. Ils ont fait ça sur le Uber avec le taxi, ils ont fait ça avec Google pour le search, etc. Enfin, bon, vous connaissez le principe des marketplaces. La plupart des GAFAM, les GAFAM sont toutes américaines. Donc, il y a bien un mécanisme de financement de ces boîtes-là. Je rappelle quand même que Coinbase donc, a levé 200 millions, je crois, à date, et on parle de plusieurs centaines de millions encore de levées prochainement. Donc, clairement, ils savent financer des champions locaux. Hein, c'est ça la force des Américains. Ils savent mobiliser leurs banques pour aider ces champions. Parce que si Coinbase a pu grandir aujourd'hui, avoir 20 millions de clients là-bas, c'est parce que les banques américaines leur ont fait des facilités justement sur les flux, contrairement aux banques françaises dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un peu ce problème-là qu'il faudrait un jour traiter, que moi je dénonce, enfin que j'ai soulevé. Et le résultat, on le voit aujourd'hui, évidemment.
D'accord. Et pourquoi il faut tant d'argent pour lancer ou en tout cas amorcer le business d'un exchange? C'est du marketing? Surtout ?
Alors effectivement, c'est une bonne question, puisque nous, on a levé 1,5 million en 2015 et on a une plateforme qui fonctionnellement fait la même chose que Coinbase. Hein. On n'a pas les mêmes flux, comme je l'expliquais tout à l'heure, à cause des problèmes bancaires principalement. Mais oui, je pense que l'essentiel des 200 millions, c'est du support et du marketing pour de la relation client, je dirais, du référencement, enfin voilà, toutes ces techniques de vente et de marketing et de support client. Je pense qu'en support client, on est aussi bon, mais effectivement, comme on en a moins, on n'a pas besoin des mêmes ressources. Je suis un peu étonné quand même qu'ils soient encore enlevés, c'est-à-dire qu'ils ont déjà levé 200. Je pense que 200 millions pour une plateforme, c'est quand même beaucoup d'argent. Et là, j'ai appris, comme vous, qu'ils étaient à nouveau en train de lever de l'argent. Et là, je comprends plus trop, parce que vu que normalement, ils doivent être largement profitables, je vois pas très bien pourquoi. Alors peut-être pour de la croissance externe, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'exchanges dans le monde, hein, donc peut-être qu'ils vont se lancer dans une stratégie d'acquisition et de croissance externe, c'est peut-être ça. J'en sais rien, il faudra leur demander en fait.
Ça serait plus simple en effet. Actuellement, il y a combien de clients enregistrés chez Paymium?
Alors nous, on a à peu près 200 000 clients je dirais que les clients actifs, ça va être typiquement entre 10 et 15% dans un mois donné pour faire réaliser au moins un échange dans le mois, puisqu'il y a effectivement des clients qui viennent chez nous pour acheter des bitcoins et qui après thésaurisent un petit peu, et puis il y en a d'autres qui sont très actifs. Donc, mais on a 200 000 clients en base aujourd'hui.
D'accord. Est-ce que le business de Paymium est rentable actuellement?
Alors, il est rentable, mais il n'est pas suffisant, je dirais, par rapport à nos plateformes, aux plateformes concurrentes dont on parle. Donc, notre objectif, c'est clairement d'acquérir entre 1 et 2 millions de clients dans l'année qui vient, de deux manières. Avec le lancement d'une plateforme crypto, qui est blockchain.io.
On allait y venir.
Sur Paymium, spécifiquement, rajouter le dollar, le yen et la monnaie coréenne, Korean Won, pour justement adresser l'ensemble du marché des conversions Bitcoin vers fiat currencies, via monnaie traditionnelle. Parce qu'aujourd'hui, avec l'euro, l'euro représente moins de 10% en fait des échanges en Bitcoin, Bitcoin monnaie traditionnelle. Donc on adresse clairement qu'il nous reste 90% du marché à adresser. Donc on a clairement ce travail-là à faire sur Paymium, et ça c'est pour début 2019 qu'on va rajouter dollars et yens notamment.
D'accord. Donc vous disiez succinctement que vous étiez actuellement en train de préparer une nouvelle aventure, vous êtes en train de lever des fonds même pour créer une nouvelle plateforme d'échange baptisée blockchain.io. Alors à quoi elle va servir étant donné que vous aviez déjà Paymium ?
Alors Paymium, comme je le disais, c'est juste une paire d'échanges aujourd'hui, Bitcoin-Euro, hein, donc c'est... une plateforme qui est, je dirais, spécialisée sur l'échange fiat, spécialisée au sens technique, parce qu'il y a une interface bancaire, et au sens surtout réglementaire, c'est-à-dire que du coup, elle a des obligations pour opérer en Europe vis-à-vis des directives sur les services de paiement. Ce qui n'est pas le cas de blockchain.io, qui va être une plateforme uniquement crypto à crypto, sans monnaie traditionnelle, et qui donc n'est pas régulée au sens des services de paiement, et qui donc peut opérer différemment, et avec, je dirais, plus d'agilité, du coup, puisque on n'est pas contraint par les frictions avec le système bancaire traditionnel. Donc c'est la raison principale pour laquelle on lance ce blockchain.io, c'est être un peu libre de nos mouvements par rapport à la fois à la réglementation qui n'existe pas, elle se met en place, mais concrètement aujourd'hui elle n'existe pas, et puis pas d'interface bancaire, on est uniquement sur les blockchains. Donc c'est pour ça qu'il y a blockchain.io. Alors cela étant, les clients pourront transférer des bitcoins d'une plateforme à l'autre pour utiliser les deux plateformes et notamment sortir en euros ou rentrer en euros si ils sont débutants, je dirais, dans l'écosystème.
D'accord. Et juste histoire de comprendre, si je veux acheter des bitcoins sur Paymium, qu'est-ce qu'il faut que je donne comme renseignement, un justificatif de domicile?
Alors aujourd'hui, c'est une pièce d'identité, un justificatif de domicile, effectivement. Je pense que ça va évoluer. On est en train de basculer sur une... pour l'année prochaine, je pense que ce sera un peu simplifié. Mais aujourd'hui, c'est encore effectivement une pièce d'identité et un justificatif de domicile.
D'accord. Et sur blockchain.io, ce sera...
Blockchain.io, ce sera plutôt une pièce d'identité et un selfie. Quelque chose de plus moderne, j'ai envie de dire. Et ça encore, c'est à cause de... C'est grâce au fait qu'on n'aura pas d'adhérence avec le système bancaire traditionnel qui, lui, est sur plutôt des méthodes de connaissance du client plutôt anciennes, plutôt datées, alors que dans l'écosystème, on est plus dans la lutte contre la fraude et le blanchiment. La pièce d'identité et le selfie sont un bon moyen de contrôler ça.
D'accord. Et vous avez choisi de faire une ICO pour lever des fonds, hein, c'est-à-dire une levée de fonds via les crypto-monnaies. Pourquoi ce choix et pourquoi ne pas être passé par le circuit traditionnel du capital risque ?
Alors l'un n'empêche pas l'autre. En fait, on a été très rapidement sur l'ICO parce qu'en gros, ça va plus vite que le capital risque, qu'une levée de fonds en traditionnel, par augmentation de capital, comme on dit, private equity, enfin, ou capital risque. Tout ça, c'est la même chose, c'est les émissions d'actions traditionnelles. Donc l'ICO, c'est plus rapide. C'est pour ça qu'on a commencé par ça. Maintenant, on envisage éventuellement de faire aussi un tour de financement par augmentation de capital.
Qui fait partie de vos actionnaires? Il y a bien le fonds de Xavier Niel, hein, c'est ça?
Alors il y a Kima Ventures, en effet, qui est le fonds de Ventures de Xavier Niel, et New Fund, qui est aussi un fonds de capital risque français bien connu.
D'accord. Et je voulais vous parler de quelque chose qui ne va peut-être pas vous plaire, mais le spécialiste du financement des startups, Michel Nison, a écrit fin septembre un billet de blog vous concernant, vous l'avez certainement lu, et il considère que votre ICO, c'est l'ultime recours pour vous relancer. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Il nous a pas contacté pour donc il a fait ça dans son coin, j'ai envie de dire. S'il connaissait le marché des exchanges et les problématiques notamment de relations avec les banques en France, je pense qu'il aurait eu un avis plus, il aurait fait un blog, un article plus intéressant. Là, juste dire que, je me souviens plus exactement de l'article, mais enfin, en gros, dire qu'on avait été moins vite que Coinbase, hein, c'était un peu ça l'article. J'ai envie de le renvoyer à la situation qui existe sur les GAFAM, sur le web en général. La France a réussi l'exploit quand même avec les meilleurs ingénieurs, parmi les tout meilleurs ingénieurs sans doute au monde dans le numérique, à n'avoir aucun champion quasiment du numérique, à part quelques exceptions. Hein, on parle toujours de Criteo, Blablacar, etc. Enfin, c'est toujours les mêmes, mais c'est qui d'ailleurs en général deviennent américaines assez vite d'ailleurs. Mais globalement, on est passé à côté d'opportunités formidables sur le web. Et j'ai envie de dire que la France essaye de répéter l'exploit sur la blockchain, avec notamment les problèmes bancaires dont je parlais. Hein. D'ailleurs, c'est toujours le problème du financement. Pourquoi les Américains ont fait les GAFAM ? Parce qu'ils ont su donner des chèques de 100 millions, effectivement, à des gens qui ont 30 ans et qui ont envie de faire quelque chose. En France, on n'est pas capable de faire ça. Faut pas se raconter d'histoire. On est capable de lui donner 1 million si vraiment il est très bon. Et puis 10, si vraiment, vraiment, il est exceptionnel. Et c'est pas avec ça qu'on fait des champions, parce que pendant ce temps-là, son voisin américain, lui, il a levé 100. Donc, à ce régime-là, on n'aura aucun champion sur le web. Et sur la blockchain, c'est la même dynamique que sur le web. C'est encore un réseau sur Internet. Hein. C'est rien. rien d'autre qu'une autre vague, je dirais, de la transition numérique. La blockchain, on peut, enfin, la blockchain, je devrais dire, les cryptocurrencies et les tokens, hein, plus précisément. C'est une nouvelle vague de la transition numérique, c'est-à-dire une nouvelle forme d'argent, de financement, de marketing, qui arrive avec cette nouvelle technologie, mais sur Internet. Donc on est dans la même situation que quand le web s'est développé, mais par contre, au niveau des financements, rien n'a changé. Si vous faites le tour des capitaux risqueurs français, vous allez vous rencontrer les mêmes. Parfois, ce sont les mêmes qu'il y a 30 ans ou 20 ans. Il y en a qui sont là depuis 20 ans. Et donc, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc, c'est plutôt ça que j'aurais envie de lire dans les blog posts de gens comme ça, que de juste d'envoyer des pics en suggérant que c'est parce qu'on n'est pas bon, parce que c'est quelque part c'est ça que ça veut dire. Moi, je pense qu'au contraire, les Français sont plutôt très bons en numérique, mais ils ont tendance à s'expatrier au bout d'un moment quand effectivement ils rencontrent trop de difficultés de financement. Moi, je suis pas là que pour l'argent, je suis aussi là par conviction, donc je reste attaché à développer quelque chose en France. J'ai les problèmes que j'évoque avec vous, j'en ai fait état à tous les décideurs que j'ai pu rencontrer. Et puis, on lance Blockchain.io pour tourner autour du problème, hein, finalement.
D'accord. Et en quoi c'est intéressant pour un investisseur d'acquérir le token Blockchain.io ? Si je comprends bien, il va fonctionner un peu comme celui de l'exchange chinois Binance, donc le BNB, hein, qui permet d'avoir des frais de transaction moins élevés. Est-ce que vous reproduisez le même modèle ?
Oui, je vais pas dire le contraire. C'est un modèle qui est très proche de celui-là. C'est ce qu'on appelle un utility token, donc un token d'usage qui vous permet d'accéder au service à prix réduit, tout simplement. Et si vous payez avec ce token, le service, vous avez un prix préférentiel, tout simplement. Et ça peut aller jusqu'à 75% de réduction, voire la gratuité pour certaines opérations. Et aussi, vous avez une voie dans le sens qu'on va vous demander votre avis si vous êtes un détenteur de token. On va vous demander votre avis, par exemple, sur quel token il faut ou quels coins il faut intégrer sur la plateforme, etc. Enfin, sur la feuille de route, il y aurait technologique et commerciale de la plateforme. Voilà, donc c'est vrai que ça ressemble à d'autres utility tokens d'exchange. Il faut savoir que ce sont les tokens qui marchent le mieux aussi, qui performent le mieux en termes de valorisation. Hein.
Ouais, le BNB marche très très bien.
Voilà, hein. Et d'autres, donc c'est pour ça qu'on est confiant pour notre opération et le business model, de toute façon, de l'exchange lui-même est assez bien rodé maintenant aussi. Et il y a de la place pour de nouveaux acteurs comme nous, parce qu'on est qu'au tout début. Ma conviction, c'est qu'on est vraiment qu'au tout début de l'adoption, aussi bien des coins que des tokens. Alors que je dis des coins plutôt pour les particuliers et les tokens pour les entreprises. Si vous demandez aux directeurs financiers de la plupart des entreprises, ils ne savent même pas ce que c'est. Et je pense que si le directeur marketing commence à leur expliquer dans les entreprises, je pense que ça peut aller très vite. Je pense que d'ici 2-3 ans, on verra un raz-de-marée, quoi. Ça va être énorme. Et donc nous, on se prépare à cette vague, disons, d'adoption de la technologie.
Et l'Europe compte très peu de plateformes d'échange de grande taille, hein. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir une sorte de souveraineté là-dessus ? Pourquoi c'est important d'avoir un Coinbase ou un Binance européen ?
Ah bah c'est très important parce que c'est ce qu'on appelle une infrastructure clé, hein, tout simplement. Dans le numérique, on connaît tout ce qui est la search, hein, le search engine Google, c'était très très stratégique. On a bien vu que les Américains se sont emparés du sujet et que maintenant, c'est peut-être très difficile d'aller contre. Par contre, l'exchange, c'est de la même façon, c'est un, si vous voulez, un point de croisement entre toutes les blockchains. En fait, le blockchain.io, pourquoi IO ? Parce que c'est input-output, c'est l'entrée-sortie d'une blockchain vers une autre blockchain. Donc c'est une infrastructure clé et effectivement, le fait que ce soit en Europe, ça va permettre à des Européens de faire grandir cet écosystème et pas de s'adresser systématiquement à des plateformes étrangères où là, vous êtes soumis à toutes sortes de contraintes que vous ne maîtrisez pas bien, notamment la capture de vos données d'identité, hein, parce que bon, il y a la lutte contre le blanchiment implique une capture des données d'identité, donc c'est quand même mieux si c'est une plateforme européenne. Elles seront sans doute mieux protégées que si c'est une plateforme étrangère.
Merci beaucoup, Pierre.
Merci, Grégory.
Merci beaucoup à Pierre Noisa pour sa participation à 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé le générique. Vous pouvez retrouver leurs références dans la description et nos précédents épisodes sur SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt !